face à l'urgence écologique, que doit-on faire ? Déserter ou agir de l'intérieur ?
Cette question, on se l'est tous posée. Qu'on soit étudiant, lanceur d'alerte, dirigeant, militant, syndicaliste, investisseur, on a tous connu ce moment où on s'est demandé comment agir, quelle voie privilégier pour avoir le plus d'impact, quelle stratégie adopter pour arriver à ses fins. Bienvenue dans le podcast « C'est maintenant ou maintenant ?» Vous vous apprêtez à passer une quarantaine de minutes en compagnie d'activistes qui secouent le monde du travail et qui cherchent à transformer l'entreprise. Ils le font de l'intérieur ou de l'extérieur, avec plus ou moins de radicalité. Nous allons essayer de comprendre qui sont celles et ceux derrière ces mouvements, ce qu'ils font concrètement, la façon dont ils s'y prennent, pour quels résultats. Prendre du recul pour y voir plus clair sur ce que ces mouvements racontent de notre époque, savoir s'ils sont porteurs d'un sursaut ou si l'histoire se répète, et vous aider à trouver votre voie dans l'action collective.
Quand l'espoir meurt, l'action commence, et l'action commence maintenant!
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans notre podcast dédié aux leviers d'action pour transformer l'entreprise et accélérer sa transition écologique et sociale, nous recevons Sarah Korn et Alain Grandjean. Sarah Korn, vous êtes partenaire impact au sein de l'entreprise d'investissement Founders Future qui a été fondée en 2018. Vous la décrivez comme une venture studio créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, dont l'objectif est de créer et investir dans des sociétés en amorçage. Vous investissez dans des startups de la tech et du digital, comme la plateforme Lydia, les magasins bio en ligne La Fourche, ou encore Colette, une plateforme de colocation intergénérationnelle. Ce qui va nous intéresser dans cet échange, c'est l'engagement de Founders Future à générer un impact positif en termes social, sociétal et environnemental. Que ce soit dans la phase d'investissement ou d'accompagnement, vous cherchez à promouvoir de nouveaux modèles de croissance durable. Pour étendre la discussion, citons notamment que vous avez travaillé 7 ans au sein d'une ONG, Planète Finance, que vous avez ensuite été associé autant d'années au sein de la plateforme de financement participatif Ulule. Nous recevons en face de vous Alain Grandjean. Alain, vous avez cofondé avec Jean-Marc Jocanvici Carbon 4 en 2007, un cabinet de conseil qui accompagne la transformation des entreprises vers la décarbonation et l'adaptation au changement climatique. Vous êtes aussi président de la Fondation pour la Nature et l'Homme et membre du Haut Conseil pour le Climat. Vous avez beaucoup travaillé sur la manière de mobiliser le système financier pour la lutte contre les dérèglements climatiques. Nous pouvons citer à ce titre différents rapports sur la tarification carbone, les financements innovants remis au président de la République ou des ministres. Mais ce qui va particulièrement nous intéresser est votre livre « L'illusion de la finance verte » que vous avez coécrit avec Julien Lefournier. Notons enfin que vous avez aussi créé avec Marion Cohen « The Other Economy », une plateforme de contenu pédagogique et de propositions sur les liens entre économie, finance et écologie. Vous l'avez peut-être deviné à la présentation de nos intervenants, dans cet épisode, nous allons nous questionner sur la capacité des fonds d'investissement à transformer l'entreprise et à pousser l'évolution de ses activités pour réduire, voire réparer son impact environnemental. Je suis Martin Verlaine et notre discussion commence maintenant. Sarah, j'ai envie de commencer avec vous, peut-être par nous raconter un moment emblématique pendant lequel vous avez eu l'impression d'avoir un réel impact en tant que partenaire d'un fonds d'investissement.
Merci Martin, bonjour à tous. Bien, comme tu l'as dit Martin, on est un fonds d'investissement en amorçage. Et ce qu'il y a de très très positif et très réjouissant quand on fait de l'amorçage, c'est-à-dire quand on investit vraiment les premiers euros dans une entreprise, c'est l'enthousiasme de faire exister une solution. Moi, j'ai rejoint Founders Future il y a 2 ans pour accélérer justement l'investissement responsable et gérer un fonds qui investit dans des alternatives plus durables. Et la première fois que j'ai ressenti vraiment le pouvoir d'action et l'impact d'un fonds d'investissement, c'est quand on investit dans notre première entreprise via ce fonds qui était en amorçage, donc qui n'existait pas, hein, on était dans ce qu'on appelle du pré-seed. C'est une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Bon Vivant, qui est une alternative à la protéine de lait, donc qui est une alternative qui a un impact environnemental intéressant, en tout cas dans la consommation future qu'on va faire du lait et de sa filière. Voilà, et donc ce qui était très jouissif, c'est d'investir, comme souvent on est le premier fonds structuré, institutionnel, aux côtés de business angel ou d'argent qui vient de sa première communauté pour une entreprise, de friends and family. On vient vraiment structurer un tour de financement et faire exister l'entreprise et cette alternative. Et voilà, donc c'est très, en tout cas enthousiasmant pour un fonds comme le nôtre et de pouvoir prendre ces décisions d'investissement et faire exister ces alternatives innovantes.
Merci Sarah. Alain, j'ai envie de me tourner vers vous en introduction. Pour rentrer dans le sujet, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer pour nos auditeurs qu'est-ce que la finance verte et qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui dans le système financier international?
Alors, là, merci, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de cette invitation et de cet échange. La finance verte, ou parfois on l'appelle finance durable, c'est la partie de l'activité des acteurs financiers au sens très large du terme, hein, que ce soit des banquiers, des investisseurs, voire des assureurs, vise à financer ou à supporter d'une manière ou d'une autre avec ses services des activités qu'on dit durables. Donc la définition de la finance durable, elle est forcément en écho de ce qu'on appelle une activité durable, c'est-à-dire en gros une activité qui est compatible avec les limites planétaires, si on prend les définitions les plus récentes. Les limites planétaires, ce sont les limites écologiques, qu'elles soient relatives à la question du climat et du changement climatique, à l'érosion de la biodiversité, aux diverses pollutions. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, en vrai, les choses sont un poil plus nuancées et ça va me permettre de répondre à la deuxième question. Les choses sont un peu plus nuancées, c'est-à-dire que comme la définition de verte ou durable reste encore en débat, certains acteurs peuvent dire qu'ils sont verts et durables et l'être pas tant que ça. Et donc, deuxième point, l'Union européenne a lancé, par intermédiaire de sa commission et de la direction, des directions concernées au sein de la commission, ce qu'on appelle un agenda finance durable. Et à l'intérieur de cet agenda, il y a un travail de fond, de taxonomie, un peu comme en zoologie, on essaye de définir les espèces les unes après les autres et les unes à côté des autres et de savoir les différencier. Donc là, en l'occurrence, on essaye de différencier ce que serait une activité verte et une activité pas verte, ou une activité durable versus une activité pas durable. Et là, on s'aperçoit qu'en vrai, les activités vraiment et strictement durables au sens de cette taxonomie représentent peu de nos activités réelles pour une raison simple. Si je prends que la question climatique, c'est que 80% de notre énergie dans le monde est d'origine fossile. Donc du coup, en théorie, il ne devrait pas y avoir beaucoup plus de parts de l'activité finance durable que de parts de l'activité durable dans l'économie réelle. En vrai, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de gens d'acteurs qui se prévalent d'être durables alors qu'ils ne le sont pas complètement.
Ce n'est pas si simple d'arriver à naître sur cette thématique d'investissement responsable parce que les marchés financiers restent inscrits, ancrés dans l'injonction de Milton Friedman du début des années 70 lorsqu'il titrait un article dans le New York Times indiquant l'unique responsabilité sociale de l'entreprise est d'accroître son profit.
Dans cet extrait, on a entendu Fanny Picard, associée fondatrice d'Alter Equity, qui nous parle de finances positives au Positive Economy Forum en 2014 au Havre. Sarah, comment est-ce que votre entreprise se démarque réellement de fonds d'investissement classiques? Qu'est-ce qui fait de Founders Future un acteur engagé sur la question environnementale?
Je crois que la première spécificité de Founders Future en tant que fonds d'investissement, c'est le caractère très entrepreneurial et donc qu'on retrouve dans notre approche et donc dans notre stratégie d'investissement. On n'est pas un fonds classique avec des équipes de financiers. Ça, je crois que c'est très important parce que évidemment, les fonds plus traditionnels qui investissent sur les phases d'après d'investissement et de croissance des entreprises sont plutôt des profils de financiers. Donc, nous, on a un regard assez différent sur les entreprises qu'on finance, qu'on accompagne. On va d'abord regarder l'équipe et les intentions de l'équipe. Donc, quand il s'agit d'investir dans des alternatives plus responsables, on va essayer de mesurer un maximum l'intention positive d'apporter une réponse plus durable. Et donc, on a une lecture un peu différente et on regarde évidemment toutes les solutions et on les challenge et on les On les regarde, on les analyse au regard de... L'idée, c'est qu'elles s'inscrivent dans une transition sociale et écologique. Donc, je pense que ça, c'est très important, le mindset très entrepreneurial du fond. Ensuite, je l'ai dit au départ, on fait de l'amorçage. Donc, il y a très peu de fonds, en réalité, qui font de l'amorçage. Un fonds traditionnel d'investissement va investir dans une entreprise quand elle est dérisquée, quand elle est soit qu'elle génère un minimum de chiffre d'affaires, soit qu'elle est rentable, et donc va regarder encore sur le prisme d'une rentabilité, d'un modèle d'affaires, etc. Nous, on investit très tôt, donc on investit d'abord dans des idées, un potentiel de marché, et donc des convictions. Donc ça, c'est très important. Et puis, je terminerai sur quelque chose qui, pour moi, est très important. C'est tout le rôle qu'on a dans l'accompagnement des entreprises. En fait, pour être un bon investisseur en amorçage, il faut savoir accompagner de façon très opérationnelle les entrepreneurs, créer de la valeur. Puisqu'on les aide à rentrer dans une trajectoire de développement, à asseoir un peu les fondamentaux de l'entreprise et surtout ces sujets d'impact et de transition, à commencer à comprendre un peu ce que c'est que l'impact environnemental, l'impact social, sociétal, à commencer à objectiver les choses. Nous, on est dédiés, hein, moi je passe un peu plus de la moitié de mon temps à accompagner de façon très opérationnelle les entreprises dans lesquelles on investit.
Pour prolonger ma question, Sarah, vous restez un fonds d'investissement avec des objectifs de rentabilité. Comment arbitrez-vous entre rentabilité et impact dans les entreprises dans lesquelles vous investissez?
Oui, c'est une très bonne question. Hein. Le sujet de la performance financière d'un fonds, hein, c'est la clé. Quand on lève un fonds, on va chercher des investisseurs et on leur promet un retour sur leur investissement. C'est le fameux TRI des fonds. Alors, nous, la spécificité quand même, c'est que on a des investisseurs qui sont majoritairement des entrepreneurs, des familles d'entrepreneurs, donc qui ont un regard un peu différent sur l'investissement. Néanmoins, ils veulent, même dans l'impact, un retour. Alors après, il faut savoir justement bien quantifier ce retour et puis être très, très clair sur la capacité, à en fonction de la stratégie d'investissement, à faire ce retour financier et à combiner performance financière et performance d'impact. Donc ça, c'est très important. Nous, on a choisi de faire deux choses. Puisqu'au départ, Founder Future, c'est un fonds classique, digital et tech. Et donc, dans le fonds d'impact qu'on a lancé, on a pris le parti de se dire on pouvait combiner impact et business si tant est qu'on allait s'adresser à des secteurs, des thématiques, notamment dans la transition environnementale, où il y a énormément de profondeur de marché, puisque on se dit que c'est l'avenir et qu'il y a des green tech à aller financer et que ce sont des entreprises qui vont faire de la croissance et de la performance. En tout cas, on n'oppose pas impact et business. Bon, une fois qu'on a dit ça, je pense que ce qui est très important, c'est quand on a un fonds d'investissement, il faut équilibrer son portefeuille d'investissement avec des entreprises qui vont être capables d'apporter à plus court terme une performance financière. Quand je dis court terme, peut-être pour expliquer à nos auditeurs, un fonds, ça a une durée de vie de 10 à 12 ans, à peu près un fonds classique comme le nôtre, ce qu'on appelle un FPCI. Sur ces 10 à 12 ans de fonds, on a une période d'investissement qui va de 4 à 5 ans, à peu près, donc pour constituer son portefeuille. Nous, dans notre fonds d'impact, on vise à peu près une vingtaine d'investissements. Sur cette vingtaine d'investissements, on sait qu'il va y avoir des entreprises qui vont commencer à devenir performantes au sens pas forcément rentable et générer la rentabilité, l'EBITDA, mais qui vont avoir une trajectoire de croissance et qui vont être de bonnes candidates à la levée de fonds. Voilà, c'est le cas notamment dans certaines green tech. Et donc, on va récupérer de la liquidité, nous, à peu près en année 4-5. Ça, c'est des entreprises qui sont performantes au sens d'un fonds d'investissement classique. Et on sait qu'il y a d'autres entreprises. On sait que déjà, monter une belle entreprise, ça prend du temps, que ce soit dans l'impact ou dans l'économie plus classique. Hein. Et donc, on va avoir d'autres entreprises qui vont être capables d'assurer une forme de performance en année 6, 7, 8. Tout l'enjeu, c'est d'équilibrer le portefeuille essayer de combiner les choses au mieux.
Merci. Alain, maintenant j'ai envie de me tourner vers vous. Le fonds dont Sarah est partenaire n'est pas tout à fait la norme. Les entreprises dans lesquelles elle investit non plus. Quelle part représente aujourd'hui, selon vous, la part verte de l'activité économique française et par extension la part de fonds d'investissement qui sont durables? Est-ce que ces mécanismes de financement nous permettraient d'atteindre les objectifs climatiques de la France?
Alors, sur la première question, c'est les fonds à impact positifs. Alors, j'ai beaucoup parlé d'enjeux écologiques tout à l'heure, mais ça a bien raison de rappeler qu'il y a évidemment simultanément la question sociale. On ne va pas trop développer ce point, mais en vrai, la transition écologique ne sera pas si elle n'est pas juste pour plein de raisons, mais je n'ai pas le temps de développer. Donc, ces fonds à impact positif sont très minoritaires et je pense qu'en termes de volume, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, mais en ordre de grandeur, c'est quelques pourcents. Et comme l'a dit Sarah, il y a une difficulté évidente, puisque ces fonds d'investissement doivent rendre une certaine rentabilité aux investisseurs. Même quand ils ont été structurés initialement, c'est-à-dire dès l'origine, comme étant des fonds à impact, la contrainte de rentabilité, pas au sens strict de résultat d'EBITDA sur chiffre d'affaires ou ce qui est plutôt propre, mais de valorisation. Il faut que les entreprises se valorisent au fur et à mesure du temps, fait qu'on va aller plutôt chercher des entreprises de croissance. Et donc, il y a toute une série de paris parce que, bien sûr, toutes les activités concevables sur le plan économique ne sont pas forcément avec des taux de croissance suffisant pour apporter ses rentabilités de manière un peu non pas certaine mais probable. Donc ça c'était le premier point. Donc effectivement c'est encore un peu de la niche. Deuxièmement, est-ce que le développement de cette niche, hein, parce qu'une niche peut devenir énorme, et on a toujours vu ça dans l'histoire du capitalisme, hein, il faut un début à tout. Est-ce que elle peut régler complètement le problème? Alors, la réponse est clairement non. Pour deux raisons. La première, c'est comme j'ai rappelé tout à l'heure, 80% de nos activités économiques sont dépendantes des énergies fossiles. Bon, et donc, l'un des gros problèmes que nous avons en ce moment et qu'on aura de manière croissante, c'est le désinvestissement des activités brunes. Donc, si je prends un exemple tout bête, l'industrie automobile doit sortir de sa dépendance aux fossiles. Donc, il y a un pas à faire qui est le développement de nouvelles motorisations, qu'elles soient électriques, qui est probablement la solution à court terme la plus évidente, peut-être à terme hydrogène, on ne sait pas. Mais il faut aussi sortir des activités traditionnelles, donc les motorisations thermiques. Et ça, c'est pas les fonds à impact positif qui vont le faire. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que il y a des activités positives qu'il faut développer, qui n'ont pas le niveau de rentabilité qu'attendent les investisseurs financiers. C'est comme ça. Il n'y a pas de raison, d'ailleurs, c'est ce qu'a rappelé quelque sorte Fanny Picard tout à l'heure dans son interview en rappelant Milton Friedman. En vrai, il n'y a aucune raison pour que rentabilité économique et financière s'aligne automatiquement avec impact positif sur les enjeux sociaux et environnementaux. C'est pour ça moi je suis persuadé, mais on y reviendra un peu plus tard, qu'il y a des enjeux de réglementation dans le petit monde économique et financier à traiter.
Dans notre podcast, on se questionne sur qui a le pouvoir de transformer l'entreprise et accélérer sa transition. Sarah, j'ai donc envie de vous demander, quel est le réel pouvoir que vous avez en tant qu'investisseur pour interpeller les dirigeants d'entreprises dans lesquelles vous investissez afin qu'ils fassent évoluer leur modèle économique pour qu'ils soient plus soutenables pour le vivant?
C'est en effet une bonne question. Si tant est qu'on ait, on a un rôle dans la gouvernance de l'entreprise, oui, on a un pouvoir d'action, d'accélération de la transition. Et donc, ça... Vraiment, c'est la responsabilité des fonds et donc les objectifs que se donnent les fonds qui permettent d'accompagner les entrepreneurs qu'elles financent. Donc, nous, on a décidé chez Founder Future d'intégrer, pour répondre à nos objectifs d'impact, hein, d'intégrer au moment de l'investissement quelques conditions. Donc, on essaye de conditionner un maximum notre investissement à des objectifs à atteindre de la part des entrepreneurs. Avec toute la limite, hein, encore une fois, on investit en amorçage. Donc, quand on investit en amorçage dans l'impact, on est On est assez peu en capacité d'aller collecter de la donnée puisque l'entreprise vient de se créer. Donc, l'enjeu, c'est plutôt de l'accompagner à générer de la donnée, notamment la donnée carbone. Alors, ça paraît peu de choses, hein, mais souvent, quand on investit en amorçage, en fait, les entreprises, elles ont tellement déjà d'enjeux de business à créer. Souvent, l'impact, même quand on est dans une entreprise qui est nativement impact, c'est souvent compliqué pour les entrepreneurs de tout faire à la fois et de matérialiser les choses, et notamment de matérialiser, de concrétiser leur volonté de générer de l'impact. Donc, nous, on a quelques indicateurs qu'on s'est donnés. Donc, je parlais du bilan carbone. Moi, je les accompagne pour trouver les meilleures solutions et les meilleurs outils, hein. Donc, on a négocié aussi des partenariats avec différentes plateformes qui permettent pour des petites entreprises de faire leur bilan carbone. Ça, c'est la première chose. Quand les entreprises vendent, commercialisent un produit, moi, je les accompagne aussi à faire leur ACV. On l'a fait notamment avec Jungle, hein, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'intention d'être une meilleure alternative d'un point de vue carbone. Encore faut-il le prouver. Et on sait que le sujet carbone et l'empreinte environnementale d'une organisation, elle est complexe. Il y a pas mal de facteurs à prendre en compte.
Peut-être expliquer ACV pour nos auditeurs?
Bien sûr, l'ACV, c'est l'analyse du cycle de vie d'un produit. Donc, c'est vraiment l'empreinte environnementale au niveau du produit qu'on vend. Donc, typiquement, on a mesuré pour Jungle, qui est une ferme verticale, l'empreinte écologique de la plante qu'elle produit dans ses fermes. Et on la compare à la même plante, notamment, je peux prendre un exemple concret qui est le basilic, à une agriculture plus conventionnelle, traditionnelle. Donc ça permet en fait à l'entreprise aussi de commencer à générer de la donnée, à collecter de la donnée pour pouvoir s'inscrire dans une trajectoire à terme de réduction et de valoriser l'impact positif, si tant est qu'elle a de l'impact positif sur l'environnement. Donc ça, c'est des choses très concrètes. D'un point de vue social, sociétal, il y a des choses très faciles qu'on peut mettre en place quand on est un fonds. Je pense notamment sur le partage de la valeur. Nous, on encourage et on accompagne tous nos entrepreneurs à mettre en place, au moment de l'investissement, des plans de BSPCE pour leurs salariés, pour leurs collaborateurs. Donc, on les challenge vraiment et je pense que l'investisseur a un rôle clé à ce moment-là de l'investissement parce qu'en fait, c'est finalement un contrat qu'on passe avec une entreprise et on peut demander des contreparties et des engagements. Donc, ça, c'est très important. Et nous, on leur demande aussi, dans les 12 à 18 mois de l'investissement, de s'inscrire dans une vraie logique, soit de label, soit d'analyse de leur trajectoire d'impact, donc d'utiliser un outil ou un label qui puisse être certifiant. J'en parlerai peut-être plus tard, mais nous, on utilise beaucoup soit l'entreprise à mission, soit le label B Corp pour que toutes ces entreprises puissent au moins s'auto-évaluer et voilà, s'inscrire dans une logique de trajectoire d'impact. Donc oui, les investisseurs ont un vrai rôle, s'ils souhaitent jouer ce rôle, d'accompagner et de demander aussi des garanties aux entrepreneurs qui financent sur cette question sociale et environnementale.
Alain, j'ai envie de me tourner vers vous, peut-être en miroir à la réponse de Sarah, et peut-être en étendant pas juste au fonds d'investissement vert ou durable, mais à l'ensemble finalement des acteurs financiers. Est-ce que le salut ou la transition sociale et environnementale des entreprises viendra, selon vous, des investisseurs en capitaux?
La réponse, elle est assez nuancée. D'une part, on est dans un système capitaliste. Donc, dans un système capitaliste, le pouvoir de décision appartient à la majorité, à celui qui détient la majorité du capital. Et donc, par définition, il a, dans ce cas-là, hein, l'investisseur qui est... Il y a plusieurs catégories d'investissement possibles, mais il a un pouvoir réel sur la direction de l'entreprise. Donc ça, c'est une réponse un peu générale et un peu générique. Après, quand on regarde qui sont les investisseurs, grosso modo, il y a ce qu'on appelle le private equity, le capital privé. Donc, c'est des investisseurs financiers qui mettent de l'argent, un peu comme vient de nous expliquer Sarah. Mais là, il y a toute une typologie. Donc, il y a l'amorçage comme son fonds, mais il y a des fonds qui interviennent un peu plus tard, puis en développement. Et par ailleurs, il y a tout ce qui est capital coté en bourse, et donc avec l'appel public à l'épargne, où c'est Pierre-Paul Jacques qui détient une toute petite partie de l'action. Alors, concernant les acteurs financiers, les investisseurs en capital, pour moi, il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui investissent sur la promesse qu'ils ont fait à leurs propres investisseurs, parce qu'en général, quand on dit ils investissent, ils gèrent des fonds qui viennent d'ailleurs, avec une promesse de rendement sans autre contrepartie. Dans ce cas-là, il ne faut pas rêver si après cette promesse dite au début de l'opération, ils en demandent plus sur la partie sociétale et environnementale aux dirigeants de l'entreprise. Les dirigeants vont dire « vous êtes bien gentils, mais ce n'était pas le contrat ». C'est pour ça que c'est important la notion de contrat, comme vient de le rappeler Sarah, parce que donc il y a une autre catégorie, celle qui, précisément dans le contrat, c'est-à-dire au départ, négocie bien les fameuses contreparties en disant bah voilà, les équipes de management de l'entreprise, de direction, on va vous prêter de là, on va vous donner accès à du capital, mais il va y avoir deux conditions globalement, une qui concerne le financier, hein, donc la performance financière, et l'autre qui concerne ce qui n'est pas financier, donc ça peut être des performances environnementales, ça peut être du partage de la valeur, ça peut être ça. Donc dans cette catégorie-là, qui aujourd'hui est quand même très minoritaire, c'est évident pour moi que l'investisseur en capital a du pouvoir, qu'il peut l'exercer et qu'il va l'exercer et que ça va avoir un effet sur la conduite de l'entreprise, d'autant que par ailleurs, là, on parlait de partage de valeur avec Sarah, le financier en général a une compétence que n'a pas forcément l'entrepreneur. L'entrepreneur en général, il a la compétence de son projet, il n'a pas la compétence nécessaire pour l'ensemble de tout ce qu'il doit faire quand il est en développement d'entreprise. Bon, ça c'est sur la partie capital. Cela étant, je vais revenir une deuxième fois sur le même propos, compter uniquement sur la bonne volonté et l'envie de transformer le monde de l'ensemble de la communauté financière me semble quand même très héroïque. Donc on y reviendra tout à l'heure.
C'est un nouvel Eldorado pour la finance.
Investir son argent dans des entreprises qui font des efforts en matière d'environnement.
Et pour s'en assurer, l'État a créé le label ISR en 2016. Pour l'obtenir, cet argent doit être investi dans des entreprises respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. En 5 ans, 153 sociétés de gestion gérant plus de 800 fonds d'investissement ont été labellisées. Le tout pour près de 700 milliards d'euros.
C'est un magnifique succès.
Mais quand on épluche les actions détenues par certains de ces fonds, il y a de quoi être surpris. On y trouve de grands groupes mondiaux, leaders dans des secteurs pas toujours réputés très verts. Une organisation écologiste a passé au crible près de 300 de ces fonds. Et voici ce qu'elle a découvert.
On s'est rendu compte que dans 94% des cas, dans les fonds labellisé ISR, on pouvait trouver des entreprises des énergies fossiles, des entreprises de l'armement ou des entreprises responsables de violations de droits humains.
Vous venez d'entendre un extrait de L'Œil du 20h sur France 2 sur le label ISR. On entendait d'ailleurs Lucie Pinson qu'on a reçue dans un autre épisode. Alain, j'ai l'impression que vous portez le constat qu'il faut davantage de régulation pour que le système financier tienne compte des risques financiers liés au changement climatique et finisse par abandonner les financements et investissements délétères pour le climat, énergie fossile en premier lieu. Quel regard portez-vous sur la réglementation actuelle ?
C'est toujours le même argument. Le critère économique, le critère financier, qui est le Graal du système capitaliste, n'a strictement aucune raison de s'aligner avec l'extra-financier. Il y a absolument aucune raison. Je ne dis pas que c'est l'inverse non plus. Enfin, disons, en gros... si j'ai une activité d'extraction pétrolière et de vente de pétrole, je gagne de l'argent et c'est ça que me demandent mes actionnaires. Et donc, tout va bien. Et si je commence à me dire, moi, pétro-gazier, qu'il faut que j'arrête de faire ça, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Donc, c'est pas mon intérêt, c'est pas l'intérêt de mes actionnaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut une régulation extrêmement forte, parce qu'il faut transformer massivement l'ensemble de nos économies pour qu'elles cessent de dépendre des énergies fossiles. Ça, c'est pour la partie climatique. Mais pour la partie rapport à la nature et pour la partie destruction des environnements naturels, à peu près toutes les activités ont un impact négatif sur la planète. Donc, ce n'est pas du tout si simple que ça de faire bouger les systèmes. Alors maintenant, quel est le regard que je porte sur les réglementations en cours? À partir de 2015, donc l'accord de Paris, il y a tout un tas d'initiatives qui se sont développées, soit tirées par Marc Carnet, qui était à l'époque le patron du Conseil de stabilité financière, qui a lancé la TCFD, donc c'est un groupe de travail sur l'information à donner par les entreprises d'investisseurs, soit au niveau européen par, ce que je l'ai dit tout à l'heure, la Commission européenne qui a lancé un agenda finance durable. L'avantage et l'intérêt de ces travaux, c'est d'améliorer la qualité de l'information qui circule. Un des énormes problèmes de l'ISR qui a été bien évoqué par, par ce petit passage audio qu'on a eu, c'est qu'il y a à boire et à manger, qu'on peut s'auto-proclamer ISR, et pour toute une série de raisons que je n'ai pas envie de développer ici, la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Bon. Donc cette affaire de mettre de l'ordre dans l'information, appeler un chat, dire que veut dire durable, que veut dire par exemple une obligation verte, est-ce que tout est vert, est-ce que c'est quoi les contraintes, les limites, c'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Sarah tout à l'heure, d'un point de vue plus microéconomique, c'est extrêmement important de pousser les uns et les autres à objectiver les qualités de ce qu'ils font, parce que c'est très facile de s'auto-proclamer. Bon, maintenant, mon regard sur ces questions-là, c'est que ça ne va pas suffire. Il va falloir créer, et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer, hein, il va falloir créer des normes, des obligations, de la fiscalité. Je prends juste un exemple pour me faire comprendre, je vais arrêter là. Dans le domaine de l'industrie automobile, tout le monde comprend à peu près bien que c'est nécessaire et utile d'obliger les constructeurs à dire quelles seront les quantités d'émissions à l'échappement de leur voiture. Mais si on ne les oblige pas à réduire ces émissions à l'échappement, je ne vois pas très bien pourquoi ils le feraient. Parce que nous, consommateurs finaux, à vrai dire, ce qu'on a envie d'avoir, c'est des belles bagnoles solides qui roulent vite. Et si on n'est pas obligé de ne pas le faire, on va continuer à le faire. Et donc les constructeurs, assez spontanément, vont continuer à faire. Donc c'est ça, des régulations fortes. C'est des régulations qui obligent, contraignent, orientent et canalisent, et pas juste informent.
Sarah, en miroir, quel regard portez-vous sur les régulations actuelles du système financier et typiquement ce label ISR?
Bon, déjà, je suis évidemment très, très alignée avec ce qui vient d'être dit par, par Alain. Aujourd'hui, le monde dans lequel on est capitaliste n'a aucun intérêt à réduire sa trajectoire de croissance, s'inscrire dans une forme de sobriété, renoncer et voir... devenir contributif, régénératif. Il y a deux choses très, très importantes. Je vais y revenir. Il y a la réglementation, et la réglementation, elle fixe un cadre très important pour accélérer la transition et embarquer tous les acteurs à réduire et donc renoncer et voire contribuer. Et puis, il y a aussi l'activisme, hein, tout celles et ceux et tous les contre-pouvoirs qui, aujourd'hui, sont représentés par des collectifs, d'associations, des ONG, voilà, qui portent une voix différente et qui permettent d'accélérer la transition. Pour revenir sur la réglementation, moi, je pense que c'est la clé. Hein, on le voit, et déjà, on le voit très concrètement dans l'entrepreneuriat à impact, l'entrepreneuriat responsable. Je vais prendre un exemple concret. La loi AGEC, qui a permis, sur les sujets d'économie circulaire, aujourd'hui, d'accélérer fondamentalement la transition vers justement le plus d'usage unique, du tout plastique, voilà, le monde dans lequel on vit, hein, qui sans réglementation n'aurait pas bougé véritablement d'un iota. Hein. Donc là, on voit émerger des alternatives que nous, fonds d'investissement impact, on finance évidemment, hein, dans l'économie circulaire. Je prends un exemple, un de nos investissements dans la consigne, le réemploi, qui permet, et donc grâce à la loi AGEC qui a connu là, ces six derniers mois, une très très forte croissance pour que tous les restaurateurs puissent passer au réemploi. Bon, ça, sans la réglementation, ça n'existe pas en fait. Et c'est une entreprise qui aurait, bien sûr, qui aurait continué à se développer, comme c'est le sens de l'histoire et que le consommateur veut consommer plus responsable, qui aurait certainement eu un développement, une croissance, mais pas une très forte croissance comme c'est le cas. Et donc voilà. Donc il faut de la réglementation, c'est nécessaire. Après, comme toute réglementation ou tout label, puisqu'on parlait du label ISR, Souvent, les labels, c'est utile au démarrage pour pouvoir placer une forme de référentiel et que tous les acteurs puissent s'aligner à ce référentiel. Mais un label doit évoluer dans le temps. C'est la limite toujours du label. C'est qu'à un moment, tout le monde veut tendre vers un label. Et donc, comme tout le monde veut tendre vers un label, on essaye de faire entrer un peu des ronds dans des carrés. Et il faut challenger les labels constamment. C'est pour ça que c'est important, je parlais de la société civile, des contre-pouvoirs, de l'activisme. Il faut qu'il y ait aussi cette voie-là pour faire évoluer et faire que tous ces labels, ces certifications puissent être les plus exigeantes possibles, puisque comme on va vers, et tous ces sujets de transition d'impact vont devenir peu ou prou la norme, hein. On va aller vers un monde où il va falloir moins consommer, avoir un impact sur l'environnement, un impact social, sociétal très important. Il va falloir reporter, rendre des comptes, il va falloir mesurer. Donc on va vers un monde qui tend vers un cadre qui va être de plus en plus exigeant et donc une réglementation de plus en plus exigeante. Donc, il faut aussi adapter la réglementation. Alain parlait de cette réglementation européenne, la fameuse taxonomie dont on parle beaucoup dans le monde financier, et un jargon un peu, donc on parle aujourd'hui beaucoup de cette règle SFDR, qui en fait est une réglementation européenne qui permet de classifier les fonds d'investissement et donc de faire un peu la distinction entre des fonds d'impact qui sont classifiés article 9, donc qui visent vraiment à investir dans des sujets, des thématiques, des entreprises à impact positif, donc qui contribuent, leur cœur business est nativement impact, et des fonds dits ESG, qui sont en fait des fonds qui vont investir dans des entreprises plus classiques, qui ne sont pas forcément nativement impact, qui n'apportent pas une alternative plus responsable, mais qui doivent suivre une trajectoire de responsabilité, qui doivent s'inscrire dans une logique de responsabilité sociale et sociétale.
Alain, vous avez quelques pistes à nous partager sur comment est-ce qu'on pourrait réguler les systèmes financiers pour s'assurer que une majorité des investissements aillent à la lutte contre les dérèglements climatiques et à l'adaptation.
La priorité concernant à la fois la question climatique et la question de la destruction de la nature, hein, qui est moins présente dans l'agenda de communication, mais extrêmement préoccupante pour ceux qui sont un tout petit peu informés de la situation, et j'espère que ce sera de plus en plus de monde. La priorité, c'est l'économie réelle. Hein. Donc, il y a beaucoup d'acteurs financiers, au sens large du terme, hein, que ce soit des banquiers, des investisseurs ou des assureurs, qui disent « Attendez, vous êtes bien gentils, mais nous, on est là pour rendre des services à l'économie réelle. » Ils ont en partie raison, et donc là, j'insiste un tout petit peu, c'est que c'est quand même la grande priorité. La grande priorité, j'ai cité l'exemple de l'automobile, mais c'est vrai de tous les secteurs d'activité. Si on prend par exemple le bâtiment, la priorité absolue, et elle est mondiale, elle n'est pas juste française, c'est qu'on arrête de faire des passoires thermiques, c'est que par ailleurs on s'oblige à rénover tous les bâtiments et les logements qui sont des passoires thermiques. Et là, quand on fait ça, assez spontanément, les acteurs financiers, ils sont contents de financer ces activités, parce que pour eux, l'argent n'a pas d'odeur, comme on l'a dit sans le dire, mais je l'ai dit comme ça. Alors ensuite, en revanche, là où je suis pas complètement d'accord avec les acteurs financiers qui disent nous on suivra le développement de l'activité réelle, c'est qu'on peut pas dire une chose et son contraire. On peut pas dire que ce secteur a du pouvoir en vrai, parce que on a parlé beaucoup des investisseurs, hein, mais un banquier prêteur, il a beaucoup de pouvoir. Hein. Un banquier prêteur, il peut ne pas prêter, c'est extrêmement simple. Votre activité ne me plaît pas. Et donc elle est pas conforme à mes politiques, et donc je vous prête pas. Ou il peut prêter avec des contraintes contractuelles. Nous, on appelle ça dans le langage de la banque des covenants. Et donc c'est un petit peu l'équivalent de ce dont on a parlé tout à l'heure quand on a parlé du contrat entre l'investisseur et l'entrepreneur. Le banquier aussi, il a des contrats, il a des contrats de prêt, et ils peuvent conditionner le maintien du prêt à un certain nombre de critères qui seraient respectés. Donc on peut pas dire que ce secteur a du pouvoir et ne pas dire que si on fait bouger ce secteur, alors ça va pas avoir de l'effet sur l'économie réelle. Bien sûr que si. Donc c'est quoi les moyens de faire bouger le secteur financier au sens large? Pour moi, c'est à nouveau, malheureusement, je n'aurais pas donné à mon auditeur l'impression que je suis un fervent bureaucrate, mais c'est à nouveau de la réglementation. On a cette réglementation dont vient de parler Sarah qui concerne la formation. On peut, sur les banquiers, créer de la réglementation. Ils sont soumis à énormément de réglementations aujourd'hui. Donc, on peut les verdir, ces réglementations. Tout le monde connaît ou a entendu parler des règles de Bâle, qui sont des règles de gestion qui s'appliquent aux banques. On peut leur demander de détenir plus de capital, beaucoup plus de capital, si elles continuent à financer des activités fossiles, non vertes. On peut avoir des jeux, mais là, je ne rentre pas dans la technique, c'est un peu compliqué, mais il y a des options qui concernent la relation entre les banques et les banques centrales, où les banques centrales peuvent exercer une influence assez considérable, et le font d'ailleurs de plus en plus sur les banques, en leur demandant de faire des études sur les risques systémiques qui sont liés au climat, qu'elles prennent, elles, banques, en finançant des activités qui ne sont pas de transition. Donc, il y a plusieurs éléments de réglementation qui sont à l'agenda des réflexions actuelles au niveau européen et au niveau français. Voilà. Et puis, on pourrait imaginer, mais là, c'est presque la fin de notre conversation, mais on peut imaginer des choses un petit peu plus violentes, pas violentes, mais plus radicales, on va dire ça comme ça. On a interdit le financement des bombes à fragmentation. Il y a des activités qui deviennent totalement illicites. Et donc, je crois que c'est comme ça que ça va se terminer. C'est-à-dire qu'on va finir par comprendre que de la même manière qu'une activité ne pouvait pas rendre malade des professionnels, de même que des produits vendus ne peuvent pas rendre malade les consommateurs, hein, il y a énormément de dispositifs. Il y a une éthique autour de ça concernant la santé. Bah, la santé de la planète, ça va devenir encore plus préoccupant que la santé, ou au moins aussi préoccupante que la santé de chacun. D'ailleurs, ceci est lié à cela. Hein, notre santé est de plus en plus dépendante de la santé des écosystèmes. Et donc, on va finir par avoir le même type de procédé que ce qu'on a eu dans le domaine de la santé.
Travailler en écosystème, c'est la clé, surtout quand on travaille dans l'engagement et dans la transition, hein, pour s'inspirer des pionniers. C'est ce que je vais chercher en tout cas. Alain, il parlait de radicalité. Souvent, quand on travaille uniquement sur son projet, son fond, on oublie aussi l'impact de la radicalité. Et c'est toujours très inspirant de voir des acteurs beaucoup plus radicaux. Et voir l'effet que ça a sur toute la chaîne. Donc, moi, j'ai participé au lancement du réseau Impact France, notamment, qui était à l'origine Tech for Good France, l'association. Donc, j'ai toujours été très impliquée dans ce réseau-là, ce collectif-là, qui réunit, et ça, je trouve ça vraiment intéressant de relier les mondes, hein, des acteurs de l'associatif, de l'entrepreneuriat social et des acteurs, des entrepreneurs à impact. Donc, il y a vraiment une diversité là des profils et qui moi me nourrit en tout cas quand on veut investir dans de l'entrepreneuriat impact, hein, d'essayer de voir un peu le champ des possibles, ce qui se fait, etc. C'est vraiment très important d'avoir aussi des lieux de débat, d'échange. Nous, de nous retrouver en tant que fonds d'impact avec des fonds plus classiques ou avec d'autres réseaux, ça nourrit la réflexion et ça, je pense que c'est important aussi. Au-delà de l'impact de l'investissement au quotidien, c'est en tant que fonds ce qu'on défend comme conviction. Et donc, c'est important d'être impliqué, engagé dans des réseaux, des collectifs pour faire entendre une voix, partager, se confronter. Enfin, pour moi, c'est vraiment la clé de l'évolution. On travaille beaucoup avec le label B Corp parce qu'on a trouvé dans B Corp une manière de un référentiel en tout cas qui est intéressant et qui est adapté aussi à des petites entreprises, pas que des grands groupes. Voilà, donc vraiment dans cette démarche, donc on travaille beaucoup. Moi, j'ai été formée B Leaders pour pouvoir former toutes les entreprises qu'on accompagne. Évidemment, on intervient aussi beaucoup dans des réseaux. Je pense notamment à la CEC, hein, la Convention des entreprises pour le climat, qui là vise plutôt des entreprises classiques, c'est-à-dire qui ne sont pas nativement impact, mais qui sont dans une logique de transformation. Moi, j'ai toujours été convaincue que l'entreprise faisait partie de la solution. Donc, c'est très important, même nous, en tant que fonds d'impact, de pouvoir être aussi confrontés à à l'économie réelle. En effet, aujourd'hui, l'entrepreneuriat mission, l'entrepreneuriat impact, ça reste une niche, hein. Donc, voilà, il faut pouvoir interagir, se connecter, et notamment les grandes entreprises plus classiques, qui ne sont pas forcément nativement impact, sont demain les fournisseurs, les clients de nos entreprises impact. Donc, tout ça est un monde qui fonctionne et qui doit fonctionner ensemble. Donc oui, très, très important de fonctionner en réseau, en écosystème et de créer de la coalition.
On arrive à notre question rituelle de fin d'épisode. Je vais vous proposer une réponse courte. Si vous aviez une baguette magique pour faire basculer les entreprises et accélérer leur transition, que feriez-vous? On peut commencer par Alain.
Alors, si j'avais une baguette magique, je dirais tout simplement, messieurs, mesdames, les entrepreneurs, je vous donne jusqu'à 2030. Pour cesser toute activité nuisible à l'environnement.
Merci pour la réponse courte. Et Sarah?
Avec des moyens illimités, alors, Alain. Parce qu'il y aura toujours la question des moyens.
La question était une baguette magique. Donc, je me suis mis dans la peau d'un magicien. Je n'ai pas cherché à être réaliste. Hein. Si, j'ai écrit des tonnes de bouquins pour être réaliste, mais ce n'est pas la question.
Sarah, de votre côté, la baguette magique?
Moi, si j'avais une baguette magique, je plongerais toutes les entreprises dans une forme de nouveau monde, de nouveaux récits où toute forme d'organisation aurait un vrai impact sur le vivant, sur l'humain, prendrait soin. Donc vraiment un monde où l'intérêt général et la solidarité existent et la protection, préservation du vivant. Et pour leur montrer qu'en fait, cet avenir, il est possible, que ce n'est pas une douce utopie et qu'on peut avoir un monde qui est régi par le collectif et le fait de prendre soin, qui soit un monde qui soit désirable. Donc, de ne pas être dans la contrainte ou que toute forme de sobriété puisse être, en tout cas, évocateur et synonyme de bonheur et de plaisir et d'un monde désirable.
Merci à vous deux. C'est la fin de cet entretien, c'est maintenant ou maintenant. Merci Alain, merci Sarah pour cet échange. Si cela vous a donné des envies d'activisme, écrivez-nous à maintenant ou maintenant@gmail.com. La fin de cet entretien, c'est maintenant.